Bonjour à tous, ici Pauline Gagnon et bienvenue pour un nouvel épisode. Comme chaque semaine, je vais à la rencontre de personnalités toutes plus inspirantes, toutes plus détonnantes, toutes plus remarquables les unes que les autres. Évidemment, cette semaine ne déroge pas à la règle. Vous le savez, mon objectif avec ces interviews, c'est tout simplement de révéler des personnalités que vous ne connaissez peut-être pas, qui vont vous inspirer, qui vont vous aider à réfléchir pour vous aider, comme moi, à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur le podcast quelqu'un que je connais depuis fort longtemps. Son nom, c'est Charles Brumeau. Il est diététicien et auteur et aussi partout sur les réseaux sociaux. Ce que j'adore avec Charles, c'est qu'il va nous livrer une vision extrêmement juste et complexe, mais divertissante, de la nutrition. Vraiment, vous allez pouvoir avoir énormément de conseils dans cet épisode, mais aussi si vous le suivez sur ses réseaux sociaux, pour apprendre à mieux manger. Mais pas mieux manger juste pour perdre du poids, non, justement, pour manger en fait, pour se sentir bien, pour avoir véritablement une hygiène de vie. C'est un sujet qui me tient à cœur et c'est pour ça que j'étais aussi contente de pouvoir avoir Charles sur le podcast. Il a d'ailleurs écrit un livre excellent qui s'appelle le SAV de l'alimentation que je vous invite vivement à découvrir. Dans cet épisode, on a donc parlé de nutrition, des erreurs à ne pas commettre quand on veut bien manger. En gros, on a fait une espèce de masterclass géante, si vous voulez, du bien manger. Mais on a aussi parlé du parcours de Charles, et je le remercie parce qu'il a livré énormément de conseils sur comment construire une communauté sur les réseaux sociaux, comment s'écouter, comment pas avoir peur du regard des autres. C'était très intéressant. Je vous invite vivement à le suivre, mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Charles Brumeau. Bon, je vais m'y mettre, la pancake banane, ça me donne très envie. Mais tu vois, ça me fait une belle entrée en matière parce que je voulais commencer par faire une mini masterclass. Mini masterclass nutrition, diététique. Déjà, je pense que personne ne sait la différence entre les deux, donc ça va être intéressant d'en parler. Moi, la première.
Ok.
Et puis que je te pose des questions que moi, je me pose, que peut-être les personnes qui te suivent se posent le plus souvent. Et puis j'ai aussi fait mon petit benchmark autour de moi pour te poser plein de questions intéressantes. Okay. Donc
travail d'enquête.
Et yes, mais ça va être trop bien. Est-ce que tu peux commencer par me dire finalement les erreurs les plus fréquentes que tu vois dans le monde de la nutrition, de l'alimentation, tant de tes clients, tu vois, de tes followers sur Instagram. Enfin, c'est quoi les comportements que tu observes et tu dis ah mais c'est dommage en fait. J'aimerais bien que j'en fasse différemment.
Super question, parce que c'est souvent des comportements qui partent d'une logique. Pour perdre du poids, il faut manger moins. Pour perdre du poids, il faut couper les féculents ou les couper après 17 heures parce que le métabolisme est complètement différent la nuit et que nous sommes allongés, nous sommes dans du formol, donc nous ne brûlons plus aucune calorie. Donc, il faut absolument pas prendre de féculents le soir. Et en fait, ça part d'une logique, hein. Ouais, c'est vrai que faire gaffe à ses apports alimentaires et tout, cette histoire de déficit calorique, c'est important dans le cadre d'une perte de poids. Mais si on se surfocus dessus, on oublie tous les autres aspects, quoi. Et moi, les gens partent de ce truc-là qui a toujours une petite logique. Dans toutes nos croyances, il y a toujours une part de logique, mais ils la prennent comme une règle intangible, un truc auquel faut absolument pas déroger, comme la pierre angulaire de leur mode de vie. Et donc, si on a que ça comme horizon et qu'on l'inclut pas dans quelque chose de plus vaste, de plus grand, de mes sensations alimentaires, mes envies, ma convivialité, mes habitudes alimentaires, le pays dans lequel je suis né, mon éducation, l'ensemble de mes expériences que j'ai eues vis-à-vis de la nourriture, cette histoire de couper les féculents, oui, effectivement, tu vas couper les féculents, donc le glycogène qui va se... en gros, la réserve de glucose qui va se stocker avec un petit peu d'eau, du coup, tu vas perdre de l'eau, tu vas manger moins d'aliments énergétiques, donc factuellement, tu vas perdre du poids au tout début. Tu vas avoir cette petite zone de... ce petit palier, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, quoi? Ça marchait bien au début, cette affaire. En une semaine, en 15 jours, j'ai zappé les féculents, j'en ai vraiment mangé moins, j'ai perdu du poids. Et puis, ce palier est là, et là, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Où est-ce que je peux aller plus loin? Peut-être que je peux faire sauter ce petit déjeuner, quand même, parce que là, j'étais bien parti. Donc ça, c'est renforçateur. Et renforçant court terme, cette histoire-là. Donc, ça motive le cerveau parce qu'il est plus habitué aux récompenses court terme qu'aux éventuels bénéfices long terme. Tu sais bien, dans plein de domaines de la vie. Et donc, du coup, on se retrouve un peu coincé. On se dit, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève encore plus? Qu'est-ce que je fais mal? Peut-être qu'il faut que je change de type de pain. Peut-être qu'il faut que je fasse du jeûne intermittent, peut-être qu'au contraire, il faut que je fractionne, peut-être. Et du coup, la personne dit, ben, c'est de ma faute, je dois forcément faire quelque chose de mal et ne remet pas en cause le contexte, les besoins du corps, quoi. C'est quoi les besoins du corps, quoi? Cerveau, 130 grammes de glucides par jour, il a besoin. Tu mets pas de féculents, ça va être compliqué, ma fille.
Mmh. Voilà. Ça, c'est intéressant, tu vois, bah, parce que je pense que, enfin, moi, la première, en fait, j'en sais rien, quoi. Je suis pas du
on
métier.
Pas tous fait un DESS, non, c'est ça.
Mais donc, en fait, en gros, quand même, et c'est pas dans l'air du temps de dire ça, je pense, parce que comme tu l'as dit, le sucre aujourd'hui, c'est quand même un peu le diable. Mmh. Manger des féculents, c'est pas mauvais pour la santé. Non. Et je te dis ça parce que, comme tu sais, les pâtes ont un rôle très important dans
ah,
ma vie.
Ah oui, c'est l'amour, c'est un des amours de ta vie.
Voilà, il y a mon mari et les pâtes, quoi. Enfin, je crois tout. Qu'on peut le dire. Et donc, du coup, là, tu es en train de me rassurer fortement, Charles.
Ouais. Et puis, je pense qu'en tant que runneuse aussi, qui prépare parfois des courses et tout, ben, c'est important. C'est le carburant, c'est la filière carburant, voilà, de préférer de l'organisme. Donc, les pâtes ou le riz, les patates douces, le quinoa, les potres, petites épaules, boulgour, légumineuses, lentilles, pois chiches et tout ça, ça a vraiment leur place dans pour répondre aux besoins de notre organisme. On a besoin d'énergie, quoi. On fait des trucs et ouais, ça c'est bête de s'en passer, quoi, vraiment, je trouve.
Il y a une question que je voulais te poser parce que je pense que beaucoup de gens ont des relations compliquées avec leur poids, hommes et femmes, en fait, en réalité, puis surtout, malheureusement, avec l'âge, en général, c'est de pire en pire parce que c'est moins facile, en fait, de rester slim. Et pour autant, ils ont pas forcément envie de faire des régimes ou ils se rendent compte que, bah, s'ils font un régime, en fait, oui, ils perdent du poids, mais après, c'est le fameux effet yo-yo ou sans effet yo-yo, en fait, tu reprends, enfin, voilà, ils l'ont fait 20 fois. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent, mais finalement, en fait, c'est quoi ce qu'il faut faire pour avoir une alimentation où je me sens bien dans mes baskets? Je suis peut-être pas la personne la plus mince, mais je suis pas non plus, je me sens pas mal, tu vois, je me sens pas, trop épais, etc. Et donc, en gros, est-ce que tu as quelques conseils que tu pourrais donner juste d'hygiène de vie? Et je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse à titre perso parce que j'ai pas envie d'avoir à faire des régimes tout le temps. Mmh. Et en même temps, bah oui, j'ai quand même envie de me sentir bien dans mon corps, tu vois. Et j'ai eu des périodes dans ma vie où... Enfin, même plein de périodes dans ma vie où j'étais à 3, 4, 5, 6 kilos... tu vois, j'étais pas bien, je me sentais trop. Mmh. Et en même temps, je me dis, bah, si je fais pas de régime, comment je fais pour les perdre? Donc c'est un peu la quadrature du cercle, cette histoire. Mais c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir avec moi.
Ok. Vous avez 3 heures parce que là il y a du
oui,
lourd.
Oui, mais je sais pas.
Ouais, si quand même, il y a pas mal de choses à dire. Et juste une petite question. Quand t'avais ces 3, 4, 5 kilos là où t'étais pas bien, tu te sentais pas très bien dans ton corps, dans tes activités, est-ce que ça t'a empêché de faire des choses? Est-ce que tu t'es empêché de faire des choses ou est-ce que t'es dit ben avec ces 3, 4, 5 kilos, je continue de vivre ce que j'ai envie de vivre.
Honnêtement, je pense que j'ai jamais été dans des situations dans lesquelles je me suis empêchée de faire les choses. C'est juste que je sens que quand je fais ma course à pied, je me sens un peu plus lourde et donc je suis moins performante. Je me sens un peu plus fatiguée, je crois aussi. Je me sens pas légère, tu vois, au quotidien. C'est-à-dire, c'est bête, c'est vraiment une sensation physique, mais quand je marche dans la rue dans ces moments-là, bah, je sens que j'ai un peu plus de poids à porter. Et puis après, esthétiquement, ça me fait chier parce que je me trouve moins jolie, mes vêtements, ils sont serrés.
Ça impacte la relation que t'as avec ton corps, quoi.
Exactement. Donc c'est plus ça, tu vois, mais je dirais pas que dans mon cas, en tout cas, je sais qu'il y a des personnes que ça peut impacter beaucoup. Ouais. Moi, dans mon cas, je suis pas, je pense que je m'arrange avec moi-même pour que ça soit ok, mais je suis pas très fière de moi. Et puis, je me sens pas très bien dans mon corps.
Ok. Pour répondre à ta question initiale, en fait, ça dépend comment on voit les choses, c'est-à-dire où on voit où le poids est devenu un problème. Et donc, manger, qui était une solution pour répondre aux besoins du corps, j'ai faim, j'ai envie, je mange, solution. Eh bien, manger est devenu aussi un problème, parce que c'est une des variables d'ajustement par rapport au poids, activité physique et alimentation. Donc, soit tu le prends comme mon poids est devenu un problème, donc solution, je mange moins, je mange mieux, ou j'arrête de manger, ou je cut, quoi. Stimulus un petit peu aversif, manger pour ne pas grossir, voilà, ou pour maigrir. Soit tu considères que le corps est au sein d'un système qui peut être régulé ou dérégulé. C'est-à-dire, en gros, et il y a plein de petits trucs comme le moteur d'une voiture qui se plug sur ce moteur, c'est ben tiens, dans ma vie, autour de mon corps, tout ce qui interagit avec mon corps, c'est est-ce que je prends, est-ce que je suis en déficit ou en carence de sommeil? Est-ce que je dors suffisamment? Qualité, quantité, fringale nocturne, réveil nocturne, est-ce que je m'endors facilement ou pas? Les écrans bleus avant de dormir, tout ça, est-ce que je vais montrer ma bouille entre 8 et 9 heures du matin, la lumière du jour, même s'il fait gris, est-ce que je vais montrer ma bouille à la vraie lumière du jour? Nous, on a plutôt tendance à vivre dans des bâtiments fermés le jour et à faire de la lumière bleue en scrollant la nuit, ce qui nous empêche un peu de dormir. Donc c'est aussi la question du sommeil qui peut perturber tout ce qui est le système faim et satiété si on en manque. Est-ce que je mets suffisamment mon corps en mouvement? Corps en mouvement, c'est l'activité physique, la marche, le vélo à basse intensité, la natation, et aussi, à côté, si on peut, la pratique physique où on est un peu à bout de souffle. Running, renforcement musculaire, etc. Est-ce que je mets suffisamment mon corps en mouvement, quoi? Ensuite, est-ce que je prends soin de mon microbiote? L'ensemble des virus et des micro-organismes qui peuplent le long de notre intestin. Et c'est en gros, est-ce que je mange des crudités, des céréales complètes, des légumineuses, des oléagineux, des produits lacto-fermentés, du pain au levain naturel, voilà, tout ce genre un peu. Est-ce que je les invite suffisamment dans mon quotidien, dans mes assiettes? Est-ce que je vis une vie sociale, riche, stimulante, intéressante, agréable, quoi, les interactions sociales, rire, c'était quand la dernière fois que j'ai ri de bon cœur?
Avec voilà. Toi, il y a quelques instants.
C'est ça. Ouh là 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 là, regardez-moi, là, rire de bon cœur.
Willy est arrivé parmi nous dans la conversation, et alors là.
Ben voilà, tu vois, rire, franchement, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour, et la gestion du stress, sans vouloir à suroptimiser nos relations sociales. Je vais voir telle personne pour rire, telle personne pour être stimulante, pour prendre soin de mes sécrétions de cortisol. Waouh. C'est juste, est-ce que je vois des gens sympas, cool? Est-ce que de temps en temps, j'ai des trucs qui me stimulent dans les lectures, dans la contemplation? Est-ce que j'ai des instants comme ça, quoi, pour un peu aussi me relâcher et me stimuler? Parce que si on n'a plus tout ça, l'alimentation revient aussi en renfort et en pilier d'un truc qui lui appartient pas. C'est-à-dire l'alimentation, c'est là pour répondre à nos besoins, faim, envie, nutrition et tout. Mais c'est pas une psychologue, c'est pas non plus une assistante sociale et tout. Et ça peut arriver aussi d'avoir des envies de manger émotionnelles. Mais ben, si on a plusieurs pans de sa vie, je pourrais aussi détailler sur est-ce que mon alimentation, elle est suffisamment variée, suffisamment agréable, suffisamment colorée? Quand je vois mes assiettes, est-ce que ça me donne plutôt envie? C'est important aussi de se préoccuper de la qualité de ce qu'on met dans nos assiettes, bien évidemment, mais je l'englobe dans quelque chose de plus vaste, quoi. Donc le mouvement, le sommeil, est-ce que je vis ma vie, mon mode de vie qui régule mon stress? Quand j'ai des périodes de stress chronique, là, imagine, tu as un lancement de produit, tu as un truc et tout, genre ta 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 ta, est-ce que dans ma journée, j'ai pas quelques minutes pour souffler, sans scroller, sans regarder mes mails, sans suroptimiser, marcher, gueuler, rire, danser, écouter de la musique et tout, est-ce que je me ménage ça, quoi? Et ça, c'est aussi en lien avec gestion du stress, sécrétion des cortisols qui peuvent être prises, qui peuvent influer sur aussi la prise de poids. Donc, en fait, c'est tous ces petits paramètres-là. C'est bon, moi, quand je fais le tour de ça avec mes patientes, elles sont là. Ah oui, non, alors ça, oui, c'est vrai que peut mieux faire quand même. Qu'elles sont là en mode, oui, ben moi, je veux un plan alimentaire. Je veux des recettes légères et agréables. Voilà, je veux ça. Donc, merci. En gros, branchez-moi le programme prise de poids sans souci. Hop.
Ben c'est
on
ça.
Me branche ça et voilà, bisous.
On veut prendre des raccourcis, quoi.
C'est ça.
Mais en fait, ah oui. Non. En fait, tu es en train de nous casser complètement notre rêve.
Mais je trouve que...
Mais d'un autre côté, c'est plus complexe et plus intéressant.
Mais le voyage est plus complexe et plus intéressant et plus lié et plus en phase avec la complexité de l'être humain. Nous sommes des êtres complexes. On n'est pas juste des cyborgs ou des robots. On dit, tiens, voilà, prends ton plan alimentaire à 1800 calories ou 1600 et puis bisous. on se revoit dans un mois, c'est bon quoi.
Ciao ciao.
Ouais, voilà. Non non, on a vraiment, les femmes en fonction de leur cycle, elles ont des cravings le premier jour, le SPM quelques jours avant et tout. Bah ça c'est pas pareil. Quand on dort 4 heures par nuit et tout, bah allez vous amuser à dire. Alors aujourd'hui je vais prendre une petite salade au quinoa avec des légumes lactes fermentés, du petit basilic ciselé. Je vais prendre tout ça parce que mon diététicien m'a dit voilà que c'était équilibré. C'est ça. Bah non, en fait on a juste envie d'un gros plat de pâtes bien réconfortant, parce qu'on est crevé, qu'on a besoin d'énergie. Donc moi je m'intéresse à comment fonctionne l'humain, comment fonctionne le cœur de l'humain quoi. Sinon c'est la personne va appliquer ce plan alimentaire 2 semaines et puis va venir dire ouais ça va, mais bon là ça commence à être dur. Puis dans 3 mois c'est trop dur en fait, là ça me va pas du tout en fait, c'est beaucoup trop restrictif, ça prend pas en compte qui je suis, d'où je viens. Moi je viens du nord, vous me parlez de légumes lacto-fermentés et de carottes trappées, moi la seule couleur que je connais c'est le jaune à cause des patates, donc désolé cliché, mais j'ai vraiment eu ce cas il y a quelques jours, c'est pour ça. Donc faut aussi prendre la globalité de la personne, je trouve.
Bah écoute, hyper intéressant, j'ai plein de points sur lesquels j'aimerais rebondir, mais avant ça... Je veux quand même montrer aux personnes qui nous regardent sur YouTube que Charles m'a quand même amené du comté qui est absolument sublime, avec du poivre du Sichuan.
Exactement.
Et comme quoi, on peut se faire plaisir avec un fromage bien dense et bien gras.
Oui,
et qui est
bien de chez nous.
Ô combien délicieux.
Ouais, merci fromagerie Platini. Vraiment, ce petit poivre, nuance, complexité, persistance en bouche, c'est quasi un dessert.
Ouais, quasi un dessert. Alors comme je te le disais avant, comme il se trouve que je vois ensuite pas mal de journalistes et que je suis avec toi, j'ai évité de croquer tout de suite dedans à 10h du matin.
Super, flexibilité. Mais... Pauline s'adapte en fonction du contexte. C'est super, c'est sympa, mais peut-être le beau contexte pour le déguster, ce sera peut-être un peu après.
Juste après. Pourtant la tentation est grande. Non mais blague à part, je voulais rebondir sur 2 points là que tout ton discours m'évoque. Le premier, c'est le lien entre fatigue et travail et alimentation. Alors là du coup je te parle de quelque chose de très personnel, mais je l'ai beaucoup observé autour de moi et j'ai d'ailleurs eu des conversations avec des invités de podcast qui me disaient que c'est un vrai sujet pour eux, parce que effectivement quand tu travailles beaucoup, ce qui est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, en tout cas beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent par exemple, des salariés dans des boîtes où ils sont hyper ambitieux et se motivent et tout, l'alimentation en fait c'est un carburant, enfin, en tout cas moi je le vis comme ça, et donc je sais que les périodes où j'ai besoin de beaucoup travailler, je peux avoir des comportements beaucoup plus compulsifs. Après c'est pas compulsif grave, mais ce que je veux dire c'est oui j'ai besoin de un morceau de sucre par exemple pour me remettre d'aplomb, et je sens que ça marche sur le coup. Mais le problème, c'est qu'ensuite, je rentre dans un cycle où bah plus je suis fatiguée, plus je bouffe pour, en gros, me donner de l'énergie. En général, je dors même pas très, très bien. Et donc, en fait, c'est un espèce de cycle négatif.
C'est
donc,
la limite,
coup, Et qu'est-ce qu'on fait quand on doit bosser beaucoup et en même temps, il vaut mieux pas compenser par la nourriture parce que ça marche pas si bien sur le long terme, quoi.
C'est ça, ma question. Est-ce que... tu fais ça actuellement, que tu as trouvé ça comme stratégie court terme, mais comment ça marche pour toi?
Bien,
sur le court terme, je manque d'énergie, j'ai de l'énergie tout de suite.
Ouais.
Problème, c'est que ça peut pic d'énergie, puis peut-être un petit pic de fatigue après. Donc, besoin d'énergie, voilà. Donc, au final, cet enchaînement de séquences, tu dirais que ça marche ou que ça marche pas?
Ah bah ça marche pas, puisque au bout de 2 mois, j'ai 3 kilos en plus, que je me sens pas bien et que je suis plus fatiguée finalement.
Quel type de relation tu aimerais avoir avec ces aliments un petit peu croustis, sucrés et qui reboostent un petit peu? Quel type de relation tu aimerais avoir avec eux lors de la prochaine période de stressos?
Bah j'aimerais avoir une relation saine où aujourd'hui je les utilise comme un outil pour me donner de l'énergie, et aussi il faut le dire quand même, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, quand tu bosses comme un chien, t'es très heureux de ton travail mais tu bosses beaucoup et que tu tapes quand même pas mal d'emmerdements, et à un moment donné où le soir typiquement ton petit dîner où tu vas te prendre un verre de vin et un dessert, c'est un peu le moment facile, c'est de la consommation en fait. Donc c'est le seul moment où je suis pas en train de produire un truc, je suis pas en train de me donner du mal, je suis en train de lean back et me dire non mais là c'est bon, je me fais mon petit kiff. Le problème c'est que si tu fais ça tout le temps, bah ça devient un cercle négatif, parce qu'au bout d'un moment, et là aussi je pense que je parle pour moi, mais j'espère pas malheureusement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas où en fait l'alimentation devient un exutoire parce qu'en fait ils sont fatigués et que du coup c'est un peu leur seul moment,
parce qu'ils ont besoin d'un exutoire et qu'ils ne l'ont pas.
Tout à fait.
Donc, il y a une partie de la réponse qui est là-dedans. Quel autre exutoire tu peux aussi avoir dans ces moments-là? Et
c'est un exutoire facile et ouais, accessible.
Le plus accessible, c'est ouais. Ça en fait. Quelle est la fréquence, je sais pas, dans une semaine un peu rush comme ça et tout. Toi, tu te dis, ben bon, là, je le fais trop souvent en période de stress. Ça, c'est, je le fais toute la semaine. Là, c'est pas terrible. Je me mets dans un cycle et tout. Qu'est-ce que la fréquence idéale pour toi, ce serait quoi?
Je sais pas.
T'as une grosse semaine et tout, et tu dis
une
bon.
Une fois par semaine, franchement.
Ah ouais, une fois par semaine.
Bah non, mais une fois par semaine, me faire un bon dessert que j'aime.
Imagine,
bien.
Imagine, t'es en stress et tout, hein. T'as tes press day, t'as des trucs, t'as les lancements de produits, t'as machin et tout, t'as faut envoyer.
J'aimerais que ça soit une fois par semaine. J'aimerais que ça soit une fois par semaine. La vérité, c'est que je pense que quand je suis fatiguée et j'ai ces périodes-là, et d'ailleurs c'est drôle, mon mari m'a souvent dit, mais c'est marrant, toi t'es pas très dessert. C'est vrai, moi je suis beaucoup plus salée. Je te disais que j'adore le comté, et là j'ai envie de dévorer ton comté. Franchement, moi les gâteaux, c'est pas trop mon truc. Donc quand je me mets à bouffer des desserts, à tous les repas, c'est un signe que je suis trop fatiguée. Je sais.
Qu'est-ce que tu te vois faire? Le dernier moment où t'as pris un truc sucré, où tu te dis, putain, je suis stressé, là, il faut que je prenne un truc sucré, c'était quand?
Là, c'est pas arrivé depuis un moment. Okay. Mais, c'est arrivé peut-être en décembre, tu vois, mais.
Imagine, t'es au bureau, tu prends un truc dans le tiroir et tout, t'es devant ton ordi, t'as un mail, il y a des mauvaises nouvelles et tout. À ce moment-là, quand tu te vois faire, admettons que t'es à 2-3 mètres de toi, là, derrière toi, comme c'est une forme d'hologramme et tout. Tu te vois faire quoi avec ce, tu vois, Pauline là, la version de Pauline il y a un mois,
non,
quoi,
je vois très bien.
Qu'est-ce que tu te dis?
Je me dis pas grand chose en général, c'est automatique, je pense.
Quand ça, tu te vois toi,
et là,
qu'est-ce que
quand
ça t'évoque?
Vois,
ouais.
Quand je me vois, je
comme
me
là, tu vois, t'as un Pauline qui a vraiment à deux, t'es à deux mètres, ta version de toi du passé, d'il y a un mois, un peu stressé, qui prend ce truc de chocolat ou autre, ou je suis stressé, qui mange un peu compulsivement. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à cette Pauline là?
Je me dis qu'elle est fatiguée. Ouais,
t'es fatiguée.
Je me dis qu'elle est très fatiguée, et je me dis qu'elle fait ce qu'elle peut.
Ouais.
Et je me
pas.
Dis voilà, et puis je me dis que elle se shoote un peu, hein, objectivement, au sucre pour tenir le coup, quoi. Et qu'en fait, elle aurait peut-être mieux fait d'aller faire une petite sieste d'une heure. Ça lui ferait du bien plutôt que de bouffer une tablette de chocolat.
Si tu pouvais lui dire ou lui faire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais qui soit constructif pour elle à ce moment-là? Qu'elle soit capable d'entendre, qu'il soit bon pour elle, constructif pour elle.
Je pense que le chocolat n'est pas la solution et qu'il vaut mieux qu'elle aille se reposer. Parce qu'elle est, en plus, le chocolat va lui donner un petit shot dessus qui fait qu'elle aura de l'énergie, mais quand je suis très fatiguée comme ça, je peux devenir brouillon, je peux devenir légèrement irritée, des choses comme ça. Et donc, c'est absolument pas le chocolat qui va me sauver de cette situation, c'est plutôt un peu de repos ou de prise de recul. Donc, je dirais, repose le chocolat, t'as le droit de manger un carré si tu veux, mais disons que t'as plutôt intérêt à aller te poser, marcher 5 minutes dans la rue.
Tu pourrais avoir un petit geste pour elle, tu penses?
Une petite tape dans le dos affectueuse.
Une petite tape dans le dos, même pas un câlin pour petite Pauline.
Elle est pas désespérée, faut pas exagérer.
Ouais, donc quand même tu te jugerais pas trop et tu serais en mode peut-être, hein, je rajouterais si j'étais c'est pas facile ce que tu vis, je vois que t'es stressé là, t'es très fatigué et tout, prends une petite tape dans le dos, ça va aller et tout. Bon, on prend ce carré de chocolat, c'est pas le souci, quoi, mais peut-être t'as juste besoin de repos, de relaxation, de ressources, peut-être prends un petit temps, quoi, peut-être c'est pas sûr que ce soit vraiment ton besoin, quoi. Cool.
Vraiment, j'adore cette séance de psychanalyse
ouais,
en live avec
ça. C'est un petit truc que je fais, c'est une
non, mais c'est hyper
prise de perspective pour dire...
Mais tu vois, c'est marrant parce que je m'étais pas formulé que dans ces moments-là... Bon, je pense que je savais que je le faisais pour de l'énergie... Mais je m'étais pas rendu compte qu'il y a une autre solution très simple qui est de reposer la tablette de chocolat et de me reposer. Parce que moi, c'est très lié à ça. Je suis quelqu'un avec pas mal d'énergie et je sais que tout le monde est différent. Mais moi, c'est pas vraiment le stress. C'est plus quand mon niveau d'énergie baisse, du coup, je compense et je prends du sucre, quoi.
Parce que t'acceptes pas que ton niveau d'énergie baisse à ce moment dans la journée, surtout quand t'as besoin d'envoyer du lourd.
C'est ça.
Et du coup, c'est pas le moment, faut envoyer, quoi. Donc, voilà. Ben, peut-être, ouais, avoir un peu de compassion pour cette Pauline et se dire c'est vrai que c'est pas bête ce que tu fais, quoi. Énergie court terme, chocolat, c'est pas bête, mais juste voilà quoi, tu sais bien quand ça se répète trop quoi, un jour, deux jours, trois jours, après t'es pris dans ce truc de energy boost, coup de frein, coup de boost, coup de frein, coup de boost, tu deviens irritable, ton sommeil et tout, genre ok voilà, t'en as besoin, mais pense à plus moyen terme et tout, et voilà, t'as un peu de douceur et ouais, t'as pas besoin d'être super dur avec toi et de dire
maintenant c'est pas mon fort ça de pas être super dur avec moi, mais bon
ouais
écoute.
Ça c'est le petit côté du perfectionnisme et du allez go
on y va. Charles, j'ai d'autres questions pour toi et je veux quand même te les poser. Il y en a une qui me tient à cœur, on en a parlé, c'est la motivation. Je sais que tu as une perspective un peu différente sur le sujet. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que donc là aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, résolution, je vais mieux manger, je vais suivre les conseils de Charles et je vais maintenant changer complètement ma vie et être dans une hygiène de vie impeccable. » Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, qui perdent complètement leurs moyens quand ils sont face à des baisses de motivation. Quel est ton avis, en fait, vraiment spécifiquement sur la motivation, sur l'hygiène de vie et l'alimentation?
Ah, je suis partagé parce que, tu vois, ça m'arrive aussi de suivre des coachs sur Insta et même moi-même, parfois, d'être en mode, vous savez quoi? L'action précède la motivation. Let's go. Enfilez vos baskets, préparez-vous de bons plats et observez comment c'est. Et c'est vrai qu'une partie, ça peut marcher comme ça, en mode, voilà, let's go, moi aussi, je suis pas toujours motivé quand il y a la tombée de la nuit pour aller faire mon fractionné au stade, alors que quand je vais au stade, je vois tous ces gens qui sont à l'apéro dans des bars et tout, je dis, moi, je suis là sous la pluie, dans le vent, en mode, j'ai monté mes marches et faire mon fractionné dans mon stade, mais Charlus, qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi! Et en fait, ben, je suis dans l'action, je le fais, et puis après, je suis motivé de l'avoir fait, en fait.
Ouais.
Donc,
oui, oui. T'es fier.
Ça, l'action, mettre le corps en mouvement et avoir la fierté de se dire, je mets mon truc en action. Maintenant, bon, bah, on n'a pas tous et toutes l'espace et l'énergie quand on est parent, quand on est chef d'entreprise, freelance, stressé parce qu'on n'a pas assez de clients et tout. On n'a pas toujours l'énergie et la disponibilité de se dire, bah, je vais enfiler mes baskets ou là, je vais me faire un bon petit plat et tout. Et moi, il y a quelque chose qui compte et qui ne peut pas tromper, c'est les valeurs motrices. C'est en gros le phare dans la nuit, la boussole en pleine nature. C'est quelque chose qui ne trompe pas parce que ça part du cœur et ça revient au cœur. Les valeurs, dans l'acte, la thérapie d'acceptation et de l'engagement sur laquelle je suis formé, thérapie comportementale, les comportements et cognitifs, les pensées, c'est ce qui est important et précieux pour toi. Donc c'est pas liberté, égalité, fraternité, même si ça peut être très important pour toi. C'est ce qui est précieux et important pour la vie que j'aimerais mener. Ce qui est précieux et important pour moi, pour incarner la personne que j'aimerais être, me rapprocher d'être, pour vivre le style de vie auquel j'aspire vraiment. Quoi, c'est pourquoi je fais ça, quoi. Prendre soin de son alimentation. Varier son truc, ses assiettes, perdre du poids, voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a d'important? C'est ce que je pose souvent comme question à mes patients, c'est pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qu'il y a d'important derrière ça? Qu'est-ce qu'on touche d'important? Et bien souvent, alors bien sûr qu'il peut y avoir ma je veux me sentir mieux dans mes baskets, liberté de mouvement, bien sûr, j'en ai marre de me croiser dans le miroir, je me supporte pas, j'en peux plus, quoi. Niveau esthétique, rentrer dans mes vêtements, re-rentrer dans mes vêtements, j'ai pas refaire toute ma garde-robe et tout. Et puis, en creusant un peu, il y a aussi des aspects liés à prévention des douleurs chroniques, la santé. Je veux retrouver de la mobilité. Moi, mes cours de yoga, là, je peux plus faire ça me gêne. J'avais l'habitude de faire ça, c'est vachement important. Je prépare une course et tout, je sens que je suis plus lourde et tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, quoi. Et donc ça, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour définir des comportements au service de ces valeurs. Et les valeurs, du coup, c'est un objectif large, général, généralement inatteignable, qui se ressource de lui-même, qui se recycle de lui-même. Et quand je dis inatteignable, c'est prendre soin de soi. C'est comme, moi, ma valeur, c'est, par exemple, élever mon fils, élever mes enfants, truc. Je vais pas le barrer, quoi.
Oh, bah, ça
aujourd'hui, j'ai bien élevé mon fils. Hop, ça y est, merci. Bisous la commu. Non, c'est plutôt, c'est ce qu'on te voit faire. C'est ce que tu fais sans attendre du résultat, c'est ce que tu fais sans qu'on te voit faire, quoi. Et donc c'est c'est quoi le plus petit pas que tu pourrais prendre pour voilà, prendre, retrouver de la liberté de mouvement pour équilibrer tes assiettes, là, cette semaine, là, juste, voilà, ces trois derniers jours, quand tu regardes ce que t'as mangé, par exemple, est-ce que t'étais raccord avec ça et quel comportement tu pourrais raccrocher à ces valeurs? Et donc, quand on a la fatigue, la baisse de motivation, les réseaux sociaux qui nous disent quoi faire tout le temps et qu'on subit le flot d'informations, trucs, ben, les valeurs, justement, elles viennent là, comme ça, en mode plein cœur. Moi, je sais ce qui est important pour toi. Tu peux pas te tromper. Suis-toi, boussole. Et c'est personnel. C'est vraiment, voilà. Tes valeurs sont pas les miennes. Elles sont pas mieux ni moins bien. Pareil pour tes voisins ou tes voisines. C'est ce que tu peux suivre et qui t'inspire, quoi. C'est une direction.
T'aurais un exemple, parce que j'adore ce que tu dis et je trouve ça très inspirant, mais est-ce que tu aurais un exemple ou des exemples de valeurs, ouais, de certains de tes patients, de toi-même? Enfin, tu parlais de ton fils, par exemple.
Ouais, ben, par exemple, valeur, c'est qu'est-ce qui est important derrière tout ça? Moi, c'est prendre soin de ma santé. C'est une valeur très large, c'est une valeur. Okay. Ce qui est important et précieux pour moi, c'est prendre soin de ma santé. Il y en a d'autres...
Je veux vivre longtemps, ça peut être,
ouais,
ça.
Ouais, la longévité, quoi. Je veux vivre le plus longtemps possible sans incapacité. Je veux diminuer mes douleurs chroniques, quoi. Je veux libérer du temps pour en passer en famille, par exemple. Bon, ça, on est entre valeurs et comportements, mais c'est plus large possible, quoi. En gros, ça peut être prendre soin de soi, quoi. Une valeur qu'on peut tous partager, c'est prendre soin de soi. Et ben tiens, quels sont les comportements? Sommeil, microbiote, vie sociale, activité physique, alimentation, la beauté de l'alimentation, l'aspect visuel des plats et tout. Ouais, qu'est-ce que tu peux faire là-dedans? Quoi, le plus petit pas? Tu peux commencer par un truc. Semaine prochaine, un autre truc. Toc, toc. Tu construis des briques pour te façonner petit à petit, être l'artisan d'une vie à laquelle t'aspires vraiment, quoi.
Charles, on va passer sans transition à plutôt ton parcours, et je te remercie d'avoir partagé autant d'insights plus que de conseils, en fait, et en fait de perspectives, parce que ça fait quand même un petit moment que tu réfléchis à ces sujets. Au-delà de ton parcours sur l'alimentaire et sur la nutrition, ce qui est vraiment très très intéressant dans tout ce que tu fais, c'est que tu essayes de vulgariser, si je puis dire, mais pas vulgariser au sens où tu simplifies, au contraire, parce qu'il y a une belle complexité dans tout ce que tu dis. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la forme, tu essayes de rendre accessible, intéressant et drôle des choses qui ne le sont pas forcément, ou en tout cas qui peuvent faire peur, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper fort, parce que moi, j'adore cette idée d'élever finalement, quand on a une connaissance comme toi, technique, une expertise, de la partager, mais pas de la partager de manière pédante, de la partager de manière intéressante, drôle, divertissante, quoi. Ce que t'essayes de faire sur ton compte Instagram, maintenant ta nouvelle newsletter qui est en cours et que je vous invite à aller découvrir, messieurs, dames, 5€ par mois, c'est ça, tu
Absolument,
disais.
Charlie's Kitchen. Ouais.
Exactement, sur ton compte Insta, c'est tout à fait disponible dans la bio, je l'ai vu. Et puis voilà, et donc, en gros, qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de prendre cette casquette? Et je crois qu'on peut même dire qu'il y a plusieurs casquettes, puisque nous avons Willy,
ouais, plusieurs personnages, effectivement, Charlie, Maïté.
Mais pour donner au grand public, c'est vraiment ça, des insights qui sont parfois complexes d'une manière plus divertissante et plus intéressante.
Le fond du fond, c'est parce que j'ai assumé de me libérer, j'ai assumé cette facette-là qui était présente en moi depuis très longtemps, depuis presque 30 ans, mais que j'ai eu du mal à laisser émerger, quoi. Un petit gars du 16, les deux parents médecins, voilà, il fait des blagues, il fait il se déguise en Elikaku, mais Serfati, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas grosse, je suis dilatée. Oui, 12 enfants. Et je me déguisais, tout ça, je faisais des petits spectacles, et en fait, ben...
C'est un truc que tu faisais quand t'étais plus petit.
Ouais, je me suis rappelé quand j'ai justement cherché mes motivations intrinsèques, quoi, vraiment, qu'est-ce que tu faisais quand t'étais gamin, et que sans qu'on t'applaudisse, sans attendre du résultat, qu'est-ce que tu faisais toi tout seul? Ben, je me déguisais, j'inventais des personnages, des mondes chelous et tout. Et ça, je l'ai fait pendant mon DU sur la pédagogie, la psychologie du comportement alimentaire à Dijon, après ma reconversion. Et Ben, c'est, ça a été justement ce moment-là vers 2020 où je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je perds qu'est-ce que je gagne plutôt à recommencer à faire ça, quoi.
Ouais, toi-même, en fait.
Ouais. Ouais, mais du coup, tu vois, moi, mon orientation professionnelle, moi, je suis parti en droit direct, j'ai fait une maîtrise de droit parce que, ben, fallait avoir une situation, avocat, truc, machin, alors qu'à la base, moi, je voulais être soit cuistot, soit coach sportif et tout. Il y avait un espèce de, je sais qu'à 10-12 ans, tu vois, je faisais des petits Chris Prolls pour mon frère et mon père qui regardaient la télé avec du petit comté, des petites tomates cerises, des petites rondelles de radis. Je leur apportais en mode prenez soin des autres par l'alimentation, en fait. Et donc, ça a été un long parcours, cheminement, pour pas dire combat, pour revenir à ce fil rouge, quelque part. D'une part, l'alimentation. Et puis, ben, l'aspect comédie, humour, ben, ça s'est décidé aussi pendant cette recherche sur les motivations intrinsèques. Parce que, en gros, ben, on dit parfois à nos patients, bon, qu'est-ce que vous faisiez enfant que vous ne faites plus là, aujourd'hui? Mmh. Qu'est-ce que vous avez perdu en route, quoi? Avec les crédits, la perf, les factures à payer, les enfants, les trucs, la vie d'adulte, comme on dit, et qu'est-ce que vous faisiez là qui vous faisait vraiment vibrer, quoi? C'est vibrer votre cœur. Et ben moi, c'était ça. Je suis rentré dans mon Airbnb à Dijon, tout seul dans le froid. Je me suis dit, mais en fait, Charlus, là, tu peux le faire, tu peux le refaire. C'est pas forcé d'aller à l'Olympia, tu peux le faire. Tu prends ton téléphone, tu te filmes, tu fais des trucs. Et puis là, il y a eu le podcast qui est venu grâce à Dans la Poire, là, Eli Kaku, du coup, voilà. Tu es pas dans la poire, hein, voilà, pour celles et ceux qui ont regardé ce sketch. Et puis surtout, Niam, qu'est-ce que t'as envie de dire au monde? Comment tu peux le dire d'une manière sympa? Alors au début, du coup, c'était la libération de la comédie. Donc j'écrivais, je biffais des sketchs, des trucs, des personnages. Et puis j'avais une facilité pour prendre l'accent belge ou pour imiter les gens, pour des postures et tout. Donc je m'en suis servi. Mais le fond aussi dans la transmission, c'était surtout, je trouve que les gens retiennent mieux le message, et mes patientes me le confirment, chaque semaine, c'est vraiment là, ça m'a parlé. Là, cette formulation-là, cette joke, ce truc-là, pam, c'était une flèche plein cœur. Plutôt que cinq aliments contre cinq aliments qui bloquent ta perte de poids et le troisième va te surprendre. Reste au bout de cette vidéo. C'est bon, on en a vu 4000 des vidéos comme ça. Et plus sur, bah attends, il y a... J'ai titillé la fibre et tout, il y a eu un rire, un sourire, et en même temps, il y a une info qui a, hop, une petite pichenette qui va droit au cœur, et la personne s'est souvenue de mon intonation de voix, du contexte du sketch, et du fond de l'information, et donc, du coup, elle a pu se l'approprier, quoi. Donc, c'est émotionnel, sensoriel, et on rentre un peu dans le cœur des gens, je trouve, avec cette façon de s'exprimer.
Je te pose la question, parce que je pense qu'il y a, j'imagine, d'autres personnes comme toi qui se mettent des barrières mentales parce que toutes ces injonctions, bah moi j'ai fait des études, alors toi tes études je pourrais même pas toutes les citer, mais t'as fait franchement un nombre de d'années d'études quand même dans le monde de l'alimentation, de la nutrition, qui fait que je pense qu'on peut dire aujourd'hui que t'es expert du domaine, et pour autant maintenant en réalité tu prends un rôle qui est un rôle de drôle, quoi, de mec drôle qui parle d'alimentation et qui éduque sur l'alimentation. Et je te pose la question donc du regard des autres. Est-ce que ça a été pour toi un frein? Est-ce que ça a été une peur? Est-ce que ça l'est toujours? Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ont envie de partager dans leur domaine à eux, pas forcément l'alimentation, et qui se disent non mais je peux pas parce que moi il faut que ça soit sérieux, parce que moi j'ai fait telle étude, parce que c'est pas machin, parce que...
Parce que blouse blanche, quoi.
Ouais, par exemple, enfin, dans le domaine alimentaire, mais ça peut être... Parce que t'es une figure d'autorité, tu le veuilles ou non, et en fait, du coup, le prendre sous ce prisme-là, c'est un truc qui est quand même assez rare. Il y a d'autres personnes dans leur domaine qui le font, mais disons que c'est quand même assez rare. Et je pense que ça peut être un poids pas facile à porter. Et je peux imaginer qu'en plus, quand t'as commencé à le faire, je te le dis parce que moi, je vois très bien quand j'ai commencé à parler d'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux et de business, qui est quelque chose qui me passionne, bah en réalité, j'avais quand même un jugement assez fort de gens qui étaient en mode « Mais pourquoi fais-tu ça ? Enfin, t'as fait des bonnes études, t'as pas besoin de faire ça, c'est quand même un peu ridicule. » Et donc, en fait, je me rends compte maintenant que j'avais beaucoup d'injonctions. Et finalement, je l'ai fait quand même parce que ça me passionnait. Mais donc, je te pose cette question parce que je peux imaginer que pour toi, c'était la même chose. Le regard des autres, le regard sur toi-même.
J'ai traversé ça, ouais. Traversé ça et c'est ce que je retiens. Je l'ai fait quand même parce que je le sentais. Oui, de toute façon, quoi que tu fasses au niveau public, t'as toujours des critiques. Moi, ça fait 15 ans que je suis journaliste, j'ai toujours écrit des trucs en psycho de l'enfant, en santé, en forme, en des trucs plus d'enquête ou de science. Il y a toujours des gens qui critiquent. Après, quand ça vient des pros, je suis quand même... Pour une large majorité, je suis assez bien vu des pros de santé. Mais ouais, j'ai toujours eu ce truc-là, genre, ben... Ouais, je veux pas être le rigolo de service, le gars qui fait juste rire, quoi. Donc je faisais super gaffe, soit dans la description de mes vidéos, d'être plus sérieux, soit ben, toujours dire, ben, je suis pas juste humoriste et tout. Je le dis sous une forme, mais c'est sérieux sans se prendre au sérieux. Donc... il y a parfois des trucs gratos qui sont de la comédie pure, mais ce qui me tient à cœur, c'est vraiment c'est de passer des infos sous cette forme-là. Donc je me suis dit, ok, ben peut-être, ouais, peut-être que il y a certains trucs que je ferais pas, ouais, et peut-être que certaines personnes pensent que pas fiable, pas sérieux. Pour autant, mon cœur, il vient de là, il y va. Donc j'ai eu ce comment dire, c'est pas cette problématique, mais cette réflexion, mais ouais, ben non, je veux pas m'empêcher, je continuerai.
Tu le fais quand même, et donc
ça me ressource de le faire en fait. C'est ouais. De le faire sous cette forme, ça me ressource. Ça serait enfermant, ankylosant de me dire ah, pour me conformer à l'image que se font les gens d'un pro de santé, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait parler d'un certain nombre de voix, faire sa petite vidéo bien posée pour dire, vous savez, nanana, ben d'autres gens le font très bien, d'autres gens le font mieux que moi, et c'est très bien, mais moi je fais ce qui me fait vivre, quoi. À la fin de ma vie, je veux pas me dire, bon, moi je me suis bien conformé à l'image d'un diététicien sérieux, quoi. Voilà, hein, là j'ai bien fait le job, hein, mais j'ai pas vibré, quoi.
Et d'un point de vue un peu plus business, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, typiquement des freelances, des journalistes. Enfin, comme tu le disais, c'est pas tous les jours facile quand on est à son compte, de prendre des risques. Mmh. Et là, c'est une prise de risque. Au final, ce que tu fais, d'être toi-même et de faire rire et d'avoir pris un parti pris aussi fort. Et je pense qu'il y a des gens qui se disent, ok, bah c'est peut-être sympa, ça marche sur les réseaux sociaux, mais est-ce que du coup, t'es pris au sérieux et est-ce que, d'un point de vue purement business, c'est positif en fait pour Charles d'avoir ce genre de parti pris. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que finalement, bon, déjà il faut tout pour faire un monde, le monde est vaste, mais en plus de ça, c'est pas parce que la forme est en fait dans le divertissement que sur le fond en fait t'es pas au rendez-vous et que du coup les gens ils s'y trompent pas, quoi, au final.
Ouais, en plus pour prouver aux gens que je suis sérieux, même si je l'ai pas du tout fait pour ça, il y a des mon podcast Dans la Poire, je suis très souvent sérieux, c'est du long cours, c'est du 15, 20 minutes, 45 minutes, 1h20 parfois. Donc bon, pour prouver ça, j'ai quand même mon podcast. Mais sinon, si on se réfère uniquement à Instagram, oui, en fait, ça a marché aussi grâce ou à cause de ça. J'ai envie de dire que Dim, ok, il a fait rire, mais il y avait quand même du sous-texte. Il y avait quand même quelque chose de subtil et de nuancé dans le sous-texte. Alors c'est vrai que les gens qui s'arrêtent toujours au premier degré et qui font ha ha ha, bon, ils passent à autre chose, très bien. Mais moi, j'ai d'autres intentions là-dessus. Alors, c'est peut-être un peu trop subtil pour les algorithmes parfois, mais je nourris, je fais ma part par rapport à ça. On n'est pas toujours toujours forcé de scroller ou faire de l'ultra efficace pour les algorithmes. On fait ce qu'on sent, quoi. Et puis, l'algorithme fait son job, à nous de faire le nôtre. Donc oui, ça a plutôt marché grâce ou à cause de ça. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé de faire de la comédie si on le sent pas, si on n'est pas prêt. Moi, il y a 3 ans, j'étais pas prêt. Je regarde mes premiers posts, je regarde même mes premiers services après-vente de l'alimentation, qui est ma petite capsule du mardi 17h30. J'étais mignon, je raccrochais le téléphone comme ça, service après-vente, bonjour, j'osais pas trop en faire, aujourd'hui c'est service après-vente de l'alimentation, bonjour, oui c'est lui-même concernant, bah dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire, et bam, là, il y a de l'énergie, il y a un truc,
Tu te lâches,
m'autorise, je me suis plus lâché, mais parce que ça va dans l'énergie du truc, quoi, mais ça a pris du temps, Ça a pris du temps. Hein. Donc, c'est aussi ce que je dis aux autres pour répondre à ta question. C'est aussi, bah, vous comparez pas aux, aux bah, best vidéos maintenant. Regardez un peu comment les gens ont commencé. YouTubeurs inclus et tout. Bah,
c'est clair.
En fait, bah, ouf, ouf non plus. Puis, ils ont itéré, ils ont appris, ils ont re-regardé leurs vidéos, ils ont refait des trucs pour s'améliorer. On n'est pas forcé non plus de montrer sa bouille si on n'est pas à l'aise avec ça. On peut faire plein d'autres formats avec ce qu'on appelle des b-rolls, des petites vidéos où on pose un texte dessus. On peut aller sur le podcast. On peut faire d'autres pratiques. Newsletter, SEO, tout ça, et sur les réseaux, on n'est pas, c'est pas parce que je le fais qu'il faut que les gens le fassent, parce que ben moi j'ai mon cœur est animé par ça, et donc tant que ça me fait marrer, tant que ça me fait vibrer, je le ferai, ça me renourrit, ça me repropulse quoi. C'est pas le cas de tous les gens, il y en a qui dit bah moi ton truc là, déjà je sais pas faire l'accent belge, je sais pas faire Maïté, je sais pas faire Eli Kaku, je sais pas faire un petit truc un peu précieux, téléphone rouge machin, inventez votre truc quoi, tentez des trucs. Ça se trouve au début vous commencerez par être super sérieux, si vous n'avez pas regardé la caméra, regardez ailleurs, et puis petit à petit vous, il y a peut-être un truc qui va, voilà, soyez attentif à ce que vous dégagez quoi.
Et alors toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans? Est-ce que c'est quoi le rêve finalement, parce que t'as eu une reconversion comme on en a parlé. Je me rappelle d'ailleurs très bien d'un déjeuner qu'on avait fait ensemble où tu te posais la question de te lancer sur les réseaux sociaux et forcé de constater que franchement, t'as sacrément bien fait le job. Bravo à
Pauline
toi.
Pauline est ma marraine de podcast parce qu'elle m'a donné tous les tips.
Non mais enfin, sincèrement, les tips, ils servent à rien. C'est l'exécution, comme tu dis, qui est utile. Ouais, et franchement, tu l'as fait.
C'est important d'avoir quelqu'un à look up, tu vois, t'as dit, t'as...
Ouais.
Elle a fait, là. Et si elle a fait son truc et tout, peut-être que je peux m'inspirer de 2-3 trucs qu'elle a fait.
Ça, c'est vrai qu'avoir des... Enfin, moi, je l'ai eu aussi, tu vois, mais avoir des modèles. Enfin, des modèles, pas au sens où tu les idolâtres, mais au sens où c'est des gens dont tu t'inspires. Ouais. Et ensuite, pour se le réapproprier, c'est hyper intéressant.
Ouais. Ça recircule, c'est beau, je trouve.
Ouais, je suis d'accord.
La question,
c'était où est-ce que tu te vois dans 5 à 10 ans?
Super question piégeante et tout.
Non,
parce que...
c'est pas, j'espère que tu le prends pas comme piégeant, en fait. Non, c'est juste que
moi,
ça m'intéresse.
Je sais pas quel est mon rêve encore, tu vois. Je sais pas quelle
Alors,
est
je connais quelqu'un qui a une formation qui s'appelle Stratégie de vie. Elle est assez sympa.
Elle rebondit sur tout.
Elle pourra te faire un prix si tu veux.
Action, réaction. Waouh, pam! Il faut juste trouver une photo. Il faut trouver une photo de ton rêve. Et après, peut-être sur un PAP, tu vas sur le site du PAP, tu trouves une photo.
Non, mais blague à part, du coup, c'est une question que tu te poses actuellement?
Ah, en fait, j'ai couru toute ma vie. Et là, en mode survie, un peu une vie un petit peu en sprint, et voilà, j'étais papa à 23 ans et donc fallait un petit peu bosser, fallait genre papa investi et tout, en tout cas je faisais bien ma part, juste ma part, et bah voilà, après j'ai fait les études, j'ai pas mal bossé, j'ai récupéré mon fils pendant 4 ans et tout, notamment pour le temps de cette reconversion, et là j'ai l'impression de commencer à vivre, c'est-à-dire m'interroger depuis quelques 3-4 ans sur qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que ça te plaît, tu veux faire quoi, le temps qui te reste à vivre, qu'est-ce que tu veux transmettre, c'est quoi ton rôle sur cette planète, même à ton petit niveau de colibri mignon, qu'est-ce que tu souhaites faire. Et là, déjà, je suis dans cette phase-là, et donc j'arrive pas à me dire encore 5 ans, 10 ans et tout. Là, je suis là, le petit feu follet qui tente des trucs, et je suis déjà bien content déjà d'être en mode vie et d'avoir quitté le mode survie, qui était de bosser beaucoup. J'étais pigiste et tout, machin, en train de faire 15 000 trucs. Je fais toujours 15 000 trucs, mais là, j'ai plus l'impression de choisir. Donc tu viens juste de planter une graine pour 5 ans, 10 ans.
Donc on s'en reparle dans 10 ans.
Exactement. Super. On fait ça.
Super, merci Charles. Écoute, tu sais, à la fin du podcast, j'ai toujours des questions un peu perso. Alors on n'a pas parlé suffisamment de ton parcours, mais écoute, on fera peut-être une V2. L'idée c'était aussi que je voulais donner beaucoup de valeur et je te remercie de l'avoir fait à l'audience sur la nutrition.
Ouais, c'est plus important pour les gens.
Mais quand même au niveau perso, donc on va faire mon crible. Déjà la première question que j'aime bien poser, c'est est-ce que dans ta vie tu as vécu un grand échec dont tu pourrais nous parler? Au-delà de l'échec, tu te doutes bien que ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce que tu en as appris, quels sont les enseignements que tu en as tirés.
Un échec.
Ça peut être une période de doute aussi, tu vois.
Alors, grosse période de doute, effectivement, je crois que c'était octobre 2016, où je débute ma reconversion en diététique nutrition puisque j'étais journaliste pendant 15 ans en presse et je vivais avec une femme à l'époque qui m'avait un peu genre dit ben voilà c'est ça qu'il faut que tu fasses vraiment c'est on sent que t'es investi dans l'alimentation machin fais une reconversion moi je te soutiendrai nanana sur tous les plans
et cool.
Ouais génial. Du coup, je m'inscris, j'arrive, voilà, bonjour, moi c'est Clémence, 17 ans, j'ai passé mon bac. J'arrive, bonjour, Charles, 34 ans, 35 ans, j'ai deux fois ton âge, j'ai pas passé mon bac tout de suite, quoi, tu vois. Donc, les gars, ils ont tous 20 ans et tout. Je dis, bon, voilà. Et je vais en présentiel, du coup, 35 heures par semaine dans cette école de diététique et nutrition humaine, le DNH. Et au bout de deux mois, je prends l'eau. Je comprends rien en biochimie. C'est dur, c'est trop loin, c'est dur. Voilà. À côté, j'ai mon fils, j'écris des articles et tout. Et puis, il arrive que, voilà, petite tragédie perso. Cette femme me quitte. Elle rentre d'un voyage à New York. Je ne suis plus heureuse. Il faut qu'on le dise aux enfants. C'est clair, la sentence est tombée, quoi. Bon, ça couvait peut-être depuis quelques mois, j'ai ma part de responsabilité. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent, mais du coup, moi, j'avais moins bossé, j'avais gagné plus beaucoup de sous, plus de difficultés à me trouver un logement, donc, j'avais pas trop où j'allais dormir, quoi. Et je vais voir le directeur de l'école pour dire, je pense que je vais quitter, là, je comprends rien. Et, il faut que je trouve un logement, quoi. Dans trois semaines, je sais pas où aller, quoi. J'ai mon fils, un truc, je l'ai en full garde, donc compliqué. Donc il prend le temps de m'écouter, de me dire « Ok, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de lumière en ce moment, moi aussi mon fils il est en prépa, il est rincé et tout, c'est normal en plus, là tu comprends rien, tu prends une heure et demie de biochimie par jour, plus une heure et demie de travail personnel par jour, c'est normal, t'inquiète pas, c'est normal. » Mais ok, t'as un fils, non? Ok. Tu vas lui montrer. Hein? Donc, ne prends pas une semaine. Reviens demain. Comprends ce que tu peux comprendre. Raccroche les wagons un à un. Et voilà, tu vas lui montrer. Je rentrais, j'étais sonné comme un boxeur et tout. Genre, en mode... Montrer quoi? Pourquoi il me dit ça? Tout ça, machin. Je dors dessus. Et puis, le matin, 8h30, j'étais en cours. Et puis, je suis allé au bout du truc et j'ai eu mes examens à bloc. J'ai tout eu du premier coup avec un fils à plein temps et un job aussi de pigiste week-end, soir, nuit, jour férié. Et ça m'a quand même... ça m'a appris la force et la persévérance. En tout cas, ça m'a mis en lumière ce que je pensais ne pas avoir. La confiance, force, persévérance, ténacité. Vraiment, je crois que je me suis battu comme un beau lion pour ces 3 ans et je savais pas que j'avais ça en moi avant.
Merci d'avoir partagé ça. Non, mais vraiment. Enfin, je pense que tu pensais que c'était plus possible, quoi, que t'allais pas tenir, et puis finalement, t'as.
Ah ouais. Le rythme était fou et plus le job à côté et mon fiston, quoi. Donc ouais, c'était un peu. C'était money time, quoi, comme disait Steven Le Yarrick, que tu connais un peu.
Ouais, j'adore. Cycliste. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment?
Tu referais quelque chose, toi?
Une bonne question. Oui. Oui. Mais c'est ta question. J'y répondrai une autre fois.
Ok. Putain, la V2, elle va être ouf. qu'est-ce que je ferais différemment? Pas trop, parce que ce parcours est, comme tous les parcours, unique et singulier, et m'a mené là où j'ai la possibilité de commencer à choisir, à vivre ma vie. Faire différemment, je sais pas, mais en tout cas, ce que j'aurais aimé avoir un tout petit peu plus dans mon adolescence, c'est de cette plus de confiance et d'estime de moi, c'est-à-dire dans la capacité à pouvoir me dire ça va peut-être être dur, il y aura peut-être des moments durs, mais t'as ce qu'il faut pour faire avec, pour y faire face, pour continuer à avancer. Je pense que j'en ai manqué à une époque de ma vie, vers 16-17 ans, et du coup j'étais fasciné par les gens qui avaient plus d'expérience, qui étaient plus âgés, qui avaient plus de pouvoir, plus d'expérience. Et ça m'a ça m'a amené à 17 ans à des rencontres inadaptées et à pas savoir dire non à certaines personnes et à subir des choses pendant plusieurs années. Et ouais, ça c'est... Voilà, je pense qu'avec un peu plus de confiance en moi et d'estime de moi, à 17 ans, j'aurais pu... ouais, j'aurais pu me dire, bah, c'est bon, tu vas y arriver, t'as tout ce qu'il faut et let's go, quoi. Vas-y, Charlie.
Vas-y, Charlie. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné, est-ce qu'il y en a un qui te vient à l'esprit?
Ah, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, vraiment, c'est, je sais plus l'auteur, mais c'est, ce que les autres te reprochent, cultive-le parce que c'est toi ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a tendance à vouloir se conformer pour être aimé, se conformer pour s'intégrer, se conformer aujourd'hui sur les créateurs de contenu pour faire ce qui marche, etc. En fait, non, moi j'ai plutôt le cheminement rester sur ma vibration quand j'en trouve une. Et donc ouais, non, ben, j'ai cultivé ce qui est en moi, et c'est déjà pas mal, c'est suffisant.
Qu'est-ce que tu trouves beau? Alors ça peut être métaphorique, tu sais que c'est une question que j'aime bien, ça peut être aussi au sens purement esthétique, hein, bien sûr.
Ouais, les silences.
C'est bien que tu sois podcasteur, du coup.
Les silences, mais j'en mets dans mes podcasts, ouais. Les silences. super important, super nécessaire, tant il y a du bruit et de la surinformation partout. On ne laisse pas notre cerveau être libre de faire son job, de trier ses dossiers. On a des écouteurs tout le temps, des podcasts pour suroptimiser le temps de marche, le temps de vaisselle, le temps de toilette, le temps de truc. Et j'ai 2 minutes, je regarde mon téléphone pour voir si je peux pas encore grappiller un peu de savoir, un peu de truc. Et les silences, c'est aussi un temps d'écoute et un temps de recueil, un temps de repos. Qu'on soit entre podcasteurs, qu'on soit entre un patient et un thérapeute, quand quelqu'un me confie quelque chose d'important, marquer un temps de silence, c'est un temps de sécurité, où on est contenant, on regarde la personne dans les yeux, il y a quelque chose qui se passe dans le regard à ce moment-là, quoi. C'est important de ce retour au silence, et je trouve ça beau, ouais.
Bah, je te remercie, franchement j'adore cette réponse. C'est drôle parce que j'aurais pas dit ça pour moi-même, mais je me rends compte qu'on est alignés. Et en fait, pour moi, enfin, j'aime pas trop parler de moi sur le podcast, mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est quand je fais des épisodes de podcast, au final, c'est mes moments de silence parce que je parle pas tant que ça. Je laisse l'autre parler. Et cette position d'écoute, elle est tellement renforçante, je trouve. Et moi, elle m'apporte beaucoup. C'est un moment d'apaisement. Je te disais que j'ai une vie assez remplie. Je suis dans l'énergie et tout. Bah, le podcast, moi, c'est un peu mon moment, à la limite, de méditation. J'écoute. Je suis hyper là. Tu vois, j'ai pas mon téléphone et tout. Je t'écoute à 100% et je suis 100% focus sur toi. Et j'adore ces moments-là, quoi. Moi, vraiment, bah, c'est cool, un truc que j'adore.
C'est une des raisons pour lesquelles t'es aussi allé là-dessus, hein, pour aussi les rencontres, mais aussi avoir aussi, bah, te forcer aussi à avoir ces moments-là de...
C'est vrai.
À ce que tu fais full.
C'est clair. Alors bon, question corollaire pour toi, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui t'enrage? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que t'observes et que t'aimes pas voir, que tu trouves laid?
par haters, ce qui m'irrite, ouais, c'est parfois, pour parler de la partie que je connais sur la création de contenu, sur l'effet de halo. Donc, c'est-à-dire attribuer des caractéristiques à une personne parce qu'elle est très suivie par les gens, par exemple, et de dire, ben, en fait, tout ce qu'elle dit, c'est waouh, c'est elle est suivie par 1 million de personnes, quoi. C'est
tout ce qu'elle dit. Bah,
forcément, voilà. En plus, elle est drôle, tout ça, et puis s'habille comme ça, truc. Donc, forcément, c'est un peu parole d'évangile, quoi. Et donc, les gens qui se permettent de donner des conseils ou des partages de témoignages sous forme de conseils, parce qu'ils donnent plus de conseils maintenant, les influenceurs Dubaï, ils disent c'est juste un témoignage, voilà, pour pas être pris. Mais en gros, c'est un peu, ça a marché pour moi, donc ça va marcher pour vous, quoi. Non, hein, voilà, tu as perdu du poids en mangeant des carottes, c'est très bien, mais n'en fais pas une règle pour la terre entière. Donc ça m'irrite, enfin, c'est un petit truc un peu léger. Puis il y a autre chose au niveau sociétal, c'est plus de la colère, c'est plus sur Violence faite aux femmes, violence faite aux femmes, grande cause du quinquennat x2. Trop peu de mesures, trop peu de choses, et toujours autant de féminicides, de violences. 80%, 98% des violences, c'est des hommes. 8 plaintes sur 10 vont dans le sens 8, et 2/3 des femmes qui ont été tués par leur conjoint ou leur ex-conjoint, c'était des femmes qui avaient porté plainte, hein, 65%. Et donc, du coup, voilà, quand j'entends « laisser la justice faire son travail », oui, mais regardez aussi comment ça se passe, hein, dans la vraie vie, dans les commissariats, dans les décisions de justice, et donc besoin d'accélérer, de se mettre en mode Espagne. Ils ont diminué drastiquement, ils ont pris des mesures fortes, quoi, pour les harceleurs et les mecs violents. Voilà, maintenant, des gens, des choses qui sont vraiment insupportables, donc faut agir.
Merci. Merci pour nous.
Du cœur.
Ouais. Une croyance qui est controversée, quelque chose que tu constates autour de toi, dans la presse, les médias, ça peut être sur l'alimentation ou autre, où tu es plutôt pas du tout en phase.
Croyance controversée, compliquée, j'ai essayé de faire vite, mais en gros, il y a encore aujourd'hui des nutritionnistes extrêmement connus qui l'ont été et qui le sont aujourd'hui encore beaucoup et qui s'alignent uniquement sur pour maigrir, il faut manger moins, il faut manger moins de calories, ce qui n'est pas faux. Mais du coup, c'est trop mathématique et c'est trop ça ne prend pas en compte l'humain en fait, c'est ça. Nous, les diététiciens et diététiciennes, et aussi les psychologues, enfin, les diététiciens et diététiciennes qui sont formés au comportement alimentaire, nos cabinets sont remplis de personnes qui ont fait des régimes à 600 cal, à 900 cal, hein, des rations des enfants de 2 ans, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il faut au moins 1600, 1800, 2000 cal par jour, quoi, pour un être humain normalement constitué. Et donc, continuer dans ce prisme-là, et aujourd'hui encore, et tout, avec un regain, notamment de Pierre Ducamp sur les réseaux sociaux, désolé pour le nom, sur TikTok, sur tout ça, je pourrais en citer d'autres et tout, sur en gros, maigrir c'est facile, il faut faire ça, il faut bouffer du konjac et shut the fuck up. Non, l'être humain, encore une fois, je reviens au début, nous ne sommes pas des machines ni des cyborgs, ok, on porte son soin, son attention à l'assiette, mais on n'est pas des comptables de la nutrition, quoi. C'est un peu plus vaste que ça.
Ma dernière question pour toi, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie ? Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une musique, mais un objet culturel, on va dire, qui t'a impacté, dont tu pourrais nous parler. Pourquoi ?
J'hésitais entre le film Le Mépris de Jean-Luc Godard, 1963, Bardot, Piccoli, tout ça, et sur l'éthique. Ce type qui se fait acheter pour faire une adaptation d'une œuvre et tout, et qui est pris entre l'éthique artistique et l'argent et le fait de réussir, quoi. C'est un film que j'ai énormément vu, qui m'a la musique m'a touché, le thème m'a touché. Mais je crois que la biographie qui m'a marqué il y a longtemps, je crois que c'est ma rédac-chef, première rédac-chef qui me l'avait offert, il y a 14-15 ans, des premières biographies que j'ai lues, j'ai pas lu beaucoup dans ma jeunesse, c'est celle de Richard Branson, le patron de Virgin.
Like a Virgin, il s'appelle, non, c'est ça, hein, je crois, la biographie, elle s'appelle comme ça.
Ouais,
non, il me semble que c'est ça.
Ah, je sais plus comment elle s'appelle, mais ce que j'avais apprécié, c'est, certes, les coups de com, ok, pour faire parler de Virgin et mouiller la chemise, mais l'implication physique, l'implication du mec qui était aussi lié à sa persévérance, sa ténacité, et il racontait une anecdote que à l'âge de 4-5 ans, sa mère Eve le conduisait un petit peu dans les champs, à quelques kilomètres de chez lui. Et le laisser au milieu du champ, il dit « Go home, rentre à la maison. » Et du coup, alors c'est vrai que c'est extrêmement provocant pour les parents aujourd'hui, éducation positive, on fait pas ça, on fait pas peur aux enfants et tout. Et ils auraient raison, bien sûr, mais remis dans le contexte d'il y a, voilà, 60 ans, un peu plus, et il a flippé, mais il s'est quand même soit appuyer sur lui, sa force ou sa bonne étoile pour retrouver le chemin de cette maison avant que le soleil tombe. Et donc c'est aussi un truc sur la résilience et sur I'm gonna make it. J'ai peur, mais j'avance avec ma peur. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui a pris des risques, qui a mouillé sa chemise pour produire ce tube en 73 de Tubular Bells, deux formats de 25 minutes. Personne n'a jamais fait ça à la radio, c'est n'importe quoi. Les titres, ils sont beaucoup plus courts. Et ce type avec qui tape avec un marteau sur des carillons, avec 40 instruments, d'un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Mike Oldfield, il a produit ça. Donc, il est allé vers son cœur et son risque. Je trouve ça assez inspirant pour ça. Et il a fait aussi prendre des risques il a fait tenter des records de tour du Pacifique, traversée du Pacifique en montgolfière, etc. Où la nacelle a failli se décrocher à 2 kilomètres du sol et tout. Il a dû trouver un moyen de faire avec ce qui était très dangereux. Et donc, en tout cas, à l'époque, ouais, ça m'avait bien marqué. Je me suis dit, prise de risque, pas se conformer aux autres, y aller, mouiller la chemise, être impliqué. Et cette implication, je l'ai retrouvée aussi sur le soin que je propose aux patients et aux patientes. Je fais le lien, j'essaie d'être super rapide, mais en gros, j'ai suivi une conférence de Jeanne Siofachin, qui est psychologue et qui a beaucoup écrit sur l'hypersensibilité, sur les zèbres surtout, les hauts potentiels. Et je la connaissais en tant que journaliste, je l'avais interviewée. Je suis allé à cette conférence et elle donnait le thème, c'était en gros, pour une pédagogie impliquée envers le patient. Elle disait, mais moi je les aime mes patients. Moi j'ai envie de les prendre dans mes bras et je suis pas en posture, en mode... Donc, poursuivez. Elle avait un truc, un engagement dans le regard, dans le corps, quoi, et tout, genre, mes patients, quoi, ils sont avec moi, je suis avec eux, quoi. Et ça, voilà, ça m'a fait penser à l'implication, mais ça m'avait aussi marqué dans, tiens, ça, je vais être ce type de diététicien-là, moi, je veux me rapprocher de ça.
Je pense que tu le fais. Je pense que tu le fais, que ça se sent. J'essaie, l'implication. On la sent bien. Tu te donnes entièrement. Charles, je te remercie d'avoir partagé autant de choses avec nous. Pour les personnes qui te suivent pas encore, qui s'abonnent à ta newsletter.
Oui.
Ça se trouve sur le compte Instagram,
effectivement. Ça s'appelle Charlie's Kitchen.
Charlie's Kitchen, c'est la newsletter.
Et c'est un conseil nutrition, un assemblage très rapide pour celles et ceux qui ont pas le temps de cuisiner, et un petit podcast sur les idées reçues, 3 minutes. Chaque vendredi matin, c'est
génial. On te suit aussi sur La Poire, ton podcast. Dans La Poire, pardon, excuse-moi. Ouais. Enfin, je voulais dire sur le podcast Dans La Poire. Et Instagram, bien sûr, où on rigole.
Ouais.
Voilà. Et est-ce que LinkedIn n'est pas ton ami?
C'est mon 2024, ouais. D'accord. Ouais, c'est un truc que je souhaite investir, que j'ai complètement laissé de côté. Parce que je me dis, ouais, c'est pas assez fun, machin. Mais
pense que tu devrais.
Si. Et moi, je suis quelqu'un qui vient de l'écrit. LinkedIn, c'est aussi un réseau pour ça. On a le droit d'avoir de la nuance et de la complexité sur LinkedIn. On va pas se faire blackbouler par l'alco. LinkedIn 2024, ouais.
Génial. Charles, je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Merci. Et puis je te dis à bientôt.
Merci à toi, Pauline. À bientôt.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur paulinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.